Le soir descend sur Jérusalem, c'est magnifique, la lumière est absolument magnifique, c'est une belle, belle saison, hein, l'hiver ici. Et nous, on va rentrer à la Knesset, pour la suite de nos reportages. Et je pense qu'il va nous être confirmé ce dont on se doutait un petit peu, c'est que la guerre des civilisations a commencé. C'est au moins comme ça que les chrétiens sionistes venus des États-Unis voient les choses. Et là, il se pourrait bien que dans la rencontre qu'ils vont avoir avec certains députés responsables, les choses se confirment dans ce sens-là. Il y a beaucoup d'autres choses que nous découvrons dans ce pays décidément compliqué. Nous allons aussi retourner à Ramallah, à Gaza, bref, le reportage continue. Pendant ce temps-là, dans la base où je suis, et jusqu'à 18h, on retourne au Brésil. Les Enterres, deuxième partie, un peu en hommage et à la mémoire de ces militants et de ces paysans sans terre qui se sont fait abattre par des pistoleros il y a quelques jours. Mais d'abord, quelques messages que vous avez laissés sur le répondeur de la page. J'y suis et que j'ai écouté d'ici de Jérusalem et dont certains, dont un message ne me donne pas entièrement raison. 56 40 37, c'est le numéro du répondeur de la page JCC.
Le 21 janvier dernier, il y a tout juste un mois, au moment de souffler les bougies de mon premier quart de siècle, et alors que m'entouraient ma famille et mes amis, un manque m'a envahi. Une personne, rencontrée radiophoniquement il y a plusieurs années, n'était pas là. Pourtant, cette femme, d'à peu près mon âge, a participé, sans le savoir, et grâce aux metteurs en ondes de la base JCC, à mon épanouissement d'aujourd'hui. Où te trouves-tu, chère Valentine? Toujours dans ton Rwanda natal? Es-tu toujours aussi belle que lorsque l'équipe de Mermet a croisé ton chemin? Tu ne me connais pas, et tu n'entendras jamais ces mots, mais sache que tu m'accompagnes tous les jours, tel un ange. Ces dernières lignes, écrites le 22 janvier au petit matin, après une très belle soirée où la fête, la danse, les fous rires étaient au rendez-vous, et où le champagne coulait à flot, je les livre aujourd'hui sur les répondeurs de l'émission, simplement, naturellement. J'ai beaucoup de chance d'être née au bon endroit. Ma vie est facile, agréable. J'ai un boulot, parfois difficile, je suis infirmière en psychiatrie, mais toujours passionnant. Et surtout, je suis amoureuse. Valentine, j'espère que ce joli prénom rime pour toi, au jour d'aujourd'hui, avec douceur de vivre. Reçois mes pensées sincères. C'était Aurélia, nouvelle 25 tonnerre, parisienne à ce jour, morlésienne pour la vie. Au revoir.
Française, français, peuple du monde, peuple du pays de la terre. Pour celles et ceux qui n'aiment pas les frontières, pour celles et ceux qui désirent, qui se surprennent, pour celles et ceux libres, sauvages et joyeux, et pour tous les autres aussi, quelques mots de l'autre Hermont, pour commencer. Il se démène, mais en vain, dans ce siècle où il a été jeté. Il sent qu'il n'y est pas à sa place, et cependant, il ne peut en sortir. Et puis quelques mots de Rimbaud aussi. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Voilà, c'était l'autre Hermont et Rimbaud. Salut tout le monde, c'était Robert de Montauban. Bonne chance, ciao.
Oui, bonjour Daniel, c'est Marion, j'ai 28 ans, ça fait longtemps que je voulais passer un coup de fil et puis la vie passe, ça tient, pour les tas de sujets qu'on a en commun ou qu'on n'a pas en commun. Et puis il y a une semaine, j'étais opérée d'une tumeur au cerveau et là aujourd'hui, bah, je suis sur mon lit d'hôpital, je suis en train de t'écouter et je me sens un peu reliée au monde par France Inter. Et je me dis que j'ai eu de la chance et que finalement tout se relativise. Et puis ça fait réfléchir, on voit que la vie, elle a ses coups de gueule, ses coups de sang dans mon cas. Et voilà, j'ai une grande impatience de retrouver mes petits-enfants, de me dire que j'ai eu beaucoup de chance. Et je voulais à toi et à toute ton équipe vous dire que vous faites un travail formidable et qu'en ce moment, bah, c'est vous qui m'aidez à passer le temps. Voilà, donc c'était Marion. Bon vent à toute l'équipe. Merci, au revoir.
Déprimant et opprimant. déprimant et opprimant quand vous parlez du mur de sécurité. Eh bien vous, vous êtes désespérant et vous êtes borgne, monsieur Mermet. Car ce mur est protecteur, protecteur de vies humaines dans un quotidien que vous ne vivez pas. Votre réflexion en dit plus long sur ce regard borgne que vous avez du Proche-Orient, car vous qui ne cessez de rappeler, entre guillemets, l'histoire d'un peuple sans terre, vous êtes dans la plus totale dénégation du peuple israélien. Car je voudrais bien savoir d'où vous appelez tous les jours actuellement. Si Tibériade est bien en Israël, et si vous avez daigné remarquer que des gens vivent libres dans cette partie du monde, et que ce sont des Israéliens. Merci, au revoir.
Bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe. Voilà, écoutez, il faut que je rassure tout le monde en fait. La rencontre Bush-Chirac, il faut que je vous avoue en fait, c'est l'extrême gauche, la quatrième internationale qui infiltre et ça y est, camarades, la quatrième internationale est en route car ils l'ont dit, ça y est, Bush a dévoilé sa face. En fait, c'est un camarade. C'est la lutte finale. Allez, courage. Par contre, ça continue pour nous et c'est le non à cette Europe qu'il faut voter. Au revoir.
Direito de viver desde antes de nascer.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil. Là-bas, si j'y suis, avec les paysans sans terre d'Amazonie, Brésil.
Flight number 2, arriving from New York.
É colhido numa forma bem primitiva.
Il est beau ce riz.
Le riz, tout simplement, on prend chaque pied, on le met dans la main, on tire dessus et puis on le met dans un sac.
C'est tout simple.
T'as vu, c'est du riz qui pousse pas en rizière.
C'est
du riz qui pousse en pleine terre.
C'est du riz sec.
Ah ouais, on est dans un champ de riz tout simplement, mais ça ressemble pas du tout à une rizière. Oh, les petits enfants, regarde les trois petits lardons. Oh là là. Trois petits enfants noirs. Avec les femmes qui sont en train de laver dans cette rivière.
C'est le jour de lessive aujourd'hui.
Et on lave les enfants aussi aujourd'hui.
La petite fille qui pleure parce qu'on lui fait peur. Elle a dit maman j'ai peur. La plage.
Ah, c'est la plage là. Elles ont fait un lavoir avec des branches, avec des planches. Elles sont dans l'eau jusqu'à la taille. Et elles frottent. Et c'est la lessive de tout le monde, quoi. Est-ce que vous avez déjà vu des Français ?
Non. C'est pour ça que la petite fille a pleuré. Vous êtes les premiers Français blancs.
Ça me laisse baquer, là. Il fait chaud, humide. Le petit ruisseau, frère.
Ah, c'est gentil d'ajouter à la barre. Porque a gente precisa de uma desculpa para entrar na água. Então eu perguntei se eles não precisavam de ajuda para laver o linge, porque nós precisávamos de uma excuse para entrar na água.
E há des poissons lá?
Sim. Oui.
Ah, oui, vous prenez des poissons de temps en temps?
Avec pêche à la ligne ou pêche à la bouteille?
Il y a des écrevisses? Il y a des grenouilles?
Oui.
Caranguejo,
c'est des petits crabes des fleuves.
Ah ouais, ouais.
Ah, le poisson électrique, le poisson qui te donne un court-circuit quand tu le touches.
Ah mais c'est dangereux ça.
Et regarde la taille.
On trouve dans la rivière des poissons électriques. Et est-ce qu'il y a des piranhas?
Oui.
Non, c'est vrai?
Oui, il nous mord.
Ça vous arrive, là, les femmes, elles sont dans l'eau, ça vous arrive de vous faire manger par des piranhas?
Oui, ça arrive.
Dis donc, je sais pas si je vais aller me baigner.
Après la pluie, les marques de pas sur la terre, c'est des marques de pieds nus. Au Brésil, sur 25 millions d'adultes qui habitent les zones rurales, 2/3 n'ont pas de chaussures. Mais ici, les gens ne se battent pas pour les chaussures, ils luttent d'abord pour la terre. Terre promise en Amazonie à nouveau aujourd'hui. Au Brésil, l'avenir, c'est pas du lendemain. Au moins avec les sans-terres qui se battent, qui refusent la fatalité et la ségrégation sociale. Et ça date pas vraiment d'hier. Ce mouvement des paysans sans terre au Brésil date de 1984-85, après la dictature, la terrible dictature qui s'était abattue sur ce pays et qui avait encore accru l'inégalité foncière, agraire, disons. Eh bien, ce mouvement s'est mis en place et on peut dire qu'il s'agit d'un succès. Des dizaines de milliers de familles ont été, grâce à ce mouvement, ont pu, grâce à ce mouvement, avoir de la terre, s'installer sur des terres. On a dit et redit que ce pays, ce Brésil, est le pays le plus inégalitaire du monde, au moins en termes fonciers. Et c'est toute cette lutte que mène ce mouvement. Mais ça se limite pas seulement à obtenir de la terre. Il y a une ambition politique, une ambition de changement de la société brésilienne. Et c'est toute une organisation. Et là, on est dans un campement au sud de la ville de Marabá, dans le Pará. C'est un des états de l'Amazonie. Et des familles sont installées dans ce campement, on peut dire un squat, une occupation. Le procédé du mouvement des sans-terres consiste à organiser ces familles qui sont souvent dans un désarroi et dans une exclusion totale, de les organiser, de se préparer, et au bout de quelques mois, eh bien, on envahit littéralement une terre appartenant à un grand propriétaire. D'immenses propriétés sont détenues par très peu de familles. Quelques milliers de familles possèdent les trois quarts des terres arables au Brésil. Et donc là, on occupe, on s'accroche, on s'installe, on installe tout de suite des écoles, on installe des familles selon des plans de village très bien faits, avec une volonté de vivre ensemble, de faire avec un projet social, et puis on résiste, on s'accroche parce que les fazendeiros, les grands propriétaires, se défendent. Ils ont à leur solde des tueurs à gages, des pistoleros, donc c'est une menace pour ces familles, et on tient, des fois on se fait expulser, et puis on revient. Et on fait pression de cette façon-là sur les organismes du gouvernement qui finissent parfois, et pas toujours, mais finalement on y arrive, à ce que des terres soient attribuées, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral achète tout simplement des terres à ces fazendeiros, à ces grands propriétaires, et les distribue à ces paysans qui deviennent des paysans avec terres. Mais là, les choses commencent, parce que c'est pas tout d'avoir de la terre. Il faut savoir la cultiver, il faut trouver des débouchés, des prêts. Enfin, c'est toute une affaire. Et ce mouvement des sans-terres, depuis 84-85, eh bien, suit ça, applique ça, met ça en œuvre, et constitue sans doute aujourd'hui, dans le monde, un des mouvements sociaux, un des mouvements populaires les plus efficaces, les plus exemplaires, évidemment, qui fait envie à beaucoup qui sont dans des situations analogues à ces paysans du Brésil, et qui sont très nombreux dans le monde, de plus en plus nombreux. Pas seulement par rapport à des problèmes de terre, mais dans cette exclusion qui s'accroît toujours davantage. Et dans ces cadres de ces inégalités, disons, qui s'accroissent de plus en plus. Alors, pour nous parler de ça, on va rencontrer le leader, tout simplement, Juan Stedil, qui est le porte-parole du mouvement des sans-terres. Juan Stedil.
Para que os o povo da França tem uma ideia,
afin que le peuple français ait une idée,
aqui no Brasil existe apenas 1043 fazendeiros,
1043 fazendeiros
que são donos de áreas superiores a 20.000 hectares,
de superfície superior a 20.000 hectares,
em média,
en moyenne,
e que totaliza,
ce qui totalise à peu près
62 millions d'hectares de propriedade de apenas 1000 famílias.
Qui appartiennent à peine à 1000 familles.
Pour ceux qui découvriraient la mondialisation libérale aujourd'hui, il faudrait leur dire que ça ne date pas d'hier. Au fond, ce n'est jamais qu'une histoire qui se continue.
Claro.
Tout à fait.
Ah, de nouveau, nos méthodes.
Ce qu'il y a de nouveau, c'est les méthodes.
Et no caso de nós, do hemisfério sul,
et dans l'hémisphère sud,
antes nós éramos dominados, subordinados pelo capital internacional que vinha aqui no hemisfério sul colocar fábricas para explorar nossa mão de obra.
Avant nous étions exploités ici en Amérique du Sud par le capital international qui venait placer des usines pour exploiter aussi notre main d'œuvre nationale.
Como agora houve uma verdadeira revolução tecnológica no primeiro mundo.
Comme maintenant il y a eu une véritable révolution technologique dans le premier monde.
Que aumentou muito a produtividade do trabalho fabril.
Qui a beaucoup augmenté la productivité du travail industriel.
Os capitais não querem mais vir no hemisfério sul colocar fábricas.
Les capitaux ne veulent plus venir maintenant dans l'hémisphère sud construire des usines.
Agora eles vêm ao hemisfério sul emprestar dinheiro para pegar juros.
Maintenant ils viennent dans l'hémisphère sud nous prêter de l'argent pour récupérer les intérêts.
Ah, o que há de diferente é que
ce qui est différent maintenant.
Antigamente nos outros processos de globalização.
Lors des autres processus de globalisation.
Nós tivemos durante o colonialismo.
Nous avions durant la colonisation.
O predomínio do capital comercial.
La prédominance du capital commercial.
Depois da revolução industrial,
après
nós tivemos o predomínio
industriel, nous avons eu la prédominance
do capital industrial.
Du capital industriel.
E nessa etapa atual da globalização,
dans l'étape actuelle de la globalisation,
quem está dominando o mundo é o capital financeiro.
Ce qui domine le monde, c'est le capital financier.
E é por isso que afeta
et
a agricultura,
que cela
a indústria,
l'agriculture et l'industrie qui est installée ici.
E é por isso que nós também na agricultura,
nous aussi au niveau de l'agriculture,
acabamos tendo que nos envolver também contra
par
o capital
devoir
financeiro.
Nous impliquer aussi contre le capital financier.
Então a nossa luta é
alors,
para que
notre
o governo
lutte, c'est aussi pour que le gouvernement
rompa essa dependência externa,
rompa avec cette dépendance externe,
o capital financeiro,
avec le capital financier,
e réaplique esses recursos,
et réapplique ces recours.
Para o desenvolvimento
pour
da
le
nossa
développement de
nationale.
Notre propre économie nationale.
Seja na agricultura,
que ce soit au niveau de l'agriculture,
seja na educação,
au niveau de l'éducation,
e na produção de bens de massa,
et au niveau de la production des biens de masse,
para atender às necessidades
pour
básicas
répondre
da nossa população.
Aux besoins de base de notre propre population.
Saúde e educação, disso eu não abro mão, pois sou um cidadão e vou falar. Criança e adolescente têm direito de viver, desde antes de nascer. Criança e adolescente.
Campement du 26 mars à la sortie de la ville de Marabá dans le Pará, dans le sud du Pará, le sud-est du Pará, une zone particulièrement dure de la part des fazendeiros, ces grands propriétaires qui se défendent d'une manière tout à fait barbare. Vous savez que dans cette lutte menée par les paysans sans terre, plus de 2000 militants ou paysans sans terre ont été tués depuis 1964 par c'est par les tueurs à gages engagés par les propriétaires terriens. Un esprit totalement féodal continue de régner dans ces régions. Corruption, parce que c'est pas seul, ces gens sont pas seulement des propriétaires terriens, mais ils ont une influence sur la vie politique entre guillemets de la région. Et puis leur puissance économique ne se limite pas généralement à la terre seule. Et c'est donc dans un tout petit morceau, tout petit espace comme ça, que ces familles qui sont autour de nous campent depuis 1999. C'est une occupation qui se fait de manière très spectaculaire. Au petit matin, 1000 familles parfois débarquent avec fourches, faux drapeaux rouges, s'installent très rapidement, et puis on essaye de tenir dans l'espoir d'avoir un jour cette terre promise. Mais on s'organise, mais il y a tout un rythme de vie, un esprit, une organisation, des valeurs, une éducation et une façon. Par exemple, l'alcool est interdit dans ces campements, ce qui n'est pas forcément au goût de tout le monde. Alors il y a des familles qui s'en vont pour ça, et puis d'autres qui ne tiennent pas, et puis il y a des problèmes de revenus, puis il y a des problèmes de conflits. Toutes choses que les organisateurs, que les militants des Santerre ne cachent pas. Alors voilà, on est dans ce campement et on se balade.
Lui, c'est le commerçant, c'est l'épicier.
Ah, mais oui, mais alors là, il y a absolument tout. Valdemir, l'épicier, mais il a absolument tout. Il a des chaînes de vélo, il a des lampadaires, il a des boîtes de sardines, il a le drapeau, évidemment, du MST, il a des bonbons, il a tout, il a absolument tout.
Le supermarché ici n'appartient pas à Valdemir. Ça a une coordination du campement qui coordonne ce qui doit rentrer et ce dont les familles ont besoin.
Pourquoi tu es venu dans le campement? Pourquoi tu les as rejoints ici?
C'était un soin de conseguir un quadrat de terre pour travailler et mon papel pour les gens qui sont fracos de condition, mon papel est ce pour les gens.
Parce que j'avais un rêve, j'ai le rêve de pouvoir obtenir une terre, une petite terre, et pour réaliser ce rêve, j'ai décidé de venir ici et de rentrer dans le campement.
Et qu'est-ce que tu faisais avant ?
Je travaillais la terre de mon oncle.
Et pourquoi tu n'es pas allé travailler dans une fazenda ?
Parce que, quand tu es travaillant assim de empregado, a gente está preso, assim.
Parce que lorsqu'on travaille pour quelqu'un en tant qu'employé, on est prisonnier.
Tu dis qu'on est prisonnier, toi tu considères qu'on est prisonnier.
Preso assim, porque a gente trabalhando empregado mesmo que tá assim, eu digo assim mesmo que tá assim preso.
On n'est pas prisonnier de fait, mais travailler en tant qu'employé dans la terre des autres, c'est comme si on était prisonnier.
Ouais. Comment ça se passe ici la vie dans le campement? Là, on a l'impression, on nous dit que ça se passe toujours bien, que c'est le paradis.
Às vezes, a gente quer sair assim para fora para trabalhar e tem alguma coisa a fazer, o benefício do equipamento aí não pode.
On a aussi des obligations. Des fois, on veut sortir du campement pour aller travailler à l'extérieur, en ville, par exemple, mais on doit travailler d'abord en priorité pour le campement.
Ah. Et puis, c'est pas confortable quand même. Il y a pas beaucoup d'eau. Il n'y a pas d'électricité, enfin, c'est pas le confort, quoi.
Até agora, só energia mesmo no colégio, porque la moto.
Jusqu'à présent, on a réussi seulement à mettre l'électricité dans l'école, parce qu'il y a un moteur.
Ouais. Et entre les gens, ça se passe bien ou il y a des tensions?
Non, on n'a pas de tensions.
Non, ça, c'est cool.
Quem faz assim, coisa desagradável para o acampamento e bota pra fora.
Et quand il y a des gens qui font des choses désagréables pour le campement, qu'on n'accepte pas, on les expulse.
Ouais, c'est ça. Mais comment on les expulse? Il y a des jugements, il y a des conseils.
A gente reúne a coordenação do acampamento, aí vai discutir o que pode fazer com ele.
Alors, on réunit toute la coordination du campement et on discute avec lui de qu'est-ce qu'on va faire.
Aí, se eles. Assim, em comparação, se ele fizer uma vez. A gente reúne com ele e dá uns conselhos. Aí se ele continuar, a gente bota para fora.
Voilà, s'il fait ça une seule fois, on se réunit, on parle avec lui, il y a pas de problème. Mais si après il recommence, à ce moment-là, on l'appelle et puis on l'expulse.
C'est arrivé ça?
Oui.
À cause de
des brigues.
Oui, c'était arrivé cachaça. Parce que, surtout à cause de l'alcool.
Ah, cachaça. T'en vends pas là dans ton épicerie de la cachaça.
Non, cachaça qui
non. Ça, l'alcool, c'est interdit.
Ah, qui est ?
Oui, c'est interdit.
Qu'est-ce qui manque le plus comme produit dans le campement ?
Bon, tem muito tipo de coisa aqui. Não tem muito já que procura que já tem aqui, mas poucos que não tem.
Il y a très peu de choses finalement qu'on n'a pas. On n'a pas grand chose, mais on a un petit peu de
un
tout.
Petit peu de un tout. Petit peu de tout. Ouais, de tout un peu. Dis donc, on entend. Hein, le Brésil est un pays jeune. Hein. Sur 180 millions d'habitants, 50% ont moins de 20 ans. Et ça s'entend.
La pluie, elle arrive. Là, il va falloir qu'on se protège. On l'entend. Elle arrive là. Oui, oui, on l'entend. Elle arrive. Elle va se protéger là. Elle va se
voir.
Ah, on descend. Il vaut mieux qu'on descende. Elle est très très forte.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde là ?
Vite, vite, vite.
C'est vrai que. Non seulement là, on l'entend arriver, mais on la sent à l'odeur, la pluie qui arrive. On descend vers les baraques. La chaleur descend un petit peu. Superbe, hein, c'est un peu idyllique. On est dans les rêves utopiques, les gens du 19e, Thoreau, Fourier, enfin tous ces rêves, même Rousseau, tout ça, la vie dans la nature. Là, la pluie arrive sur les chaumes.
Ouais, dans ce cas, chauve.
Il
y a la chuva,
comme la chuva là. Non, 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 non,
c'est des gouttes énormes, c'est presque de la grêle qui tombe.
Ici, la chuva est tropicale.
Sent bon la terre mouillée, puis il y a encore des petites odeurs de fumée, fumée de bois comme ça. Ah, il y a des fuites.
Des petites fuites.
La vengeance de la pluie.
C'est peu de dire que la nature est violente. On est en Amazonie, la forêt a été entièrement rasée dans cette région, brûlée, et de l'herbe, des herbages ont été semés par avion pour fabriquer du soja et du bétail pour l'exportation, des affaires complètement aberrantes dues au fait que le Brésil est un des pays les plus endettés du monde, c'est-à-dire sous suggestion, on peut dire, des grandes instances comme le FMI et la Banque mondiale. Il y a une liberté politique extrêmement réduite pour cette raison-là. Les histoires de combat pour la terre au Brésil remontent à très longtemps, mais enfin on peut les faire commencer à la colonisation. Les Portugais ont chassé les indigènes de leurs terres et plus tard les esclaves ont lutté pour la liberté et bien entendu pour le droit à la terre. Il y a eu c'est une constante dans l'histoire de ce pays que des gens qui luttent pour la paix, pour la terre et pour la liberté en s'organisant comme ils peuvent. Et dans notre siècle, ça a continué jusqu'à la dictature qui est arrivée en 1964. Et là, les mouvements de sans-terre ont été réprimés, les grands propriétaires ont été favorisés, il y a encore eu de plus grands regroupements de terres. Et là, pendant la durée de la dictature, l'Église brésilienne a eu une attitude particulière d'aider ces mouvements populaires, de les héberger. Et c'est en fait la commission pastorale de la terre qui est à la base de ce mouvement des sans-terre. La commission pastorale de la terre continue son action, une action très courageuse, et Donc ce mouvement des sans-terres se bat aujourd'hui avec le succès qu'on sait et la popularité aussi, parce que c'est un mouvement qui est très populaire au Brésil. Alors, c'est un drôle de mélange, hein. C'est un drôle de mélange, ce mouvement, ce passé, et puis cette présence aussi des chrétiens, des catholiques, de la théologie de la libération, un mélange qui nous étonne et que nous explique Stédil, qui est le porte-parole du mouvement des sans-terres.
Nous avons l'habitude de dire que notre lutte
est
une lutte permanente contre trois murs. Le premier mur, c'est celui du latifundio.
C'est-à-dire des propriétaires terriens.
Qui talvez seja mais fácil de derrubar.
Qui finalement est peut-être le plus facile à détruire.
O segundo é o muro do capital.
Le second est le mur du capital.
Qui impede as pessoas de trabalharem.
Qui empêche les gens de pouvoir travailler.
E viverem do seu próprio esforço.
Et de pouvoir vivre de leur propre effort.
E o terceiro muro é o muro da ignorância.
Et le troisième mur, c'est le mur de l'ignorance.
E por isso que nós no movimento nos esforçamos tanto para democratizar a educação.
Et c'est pour cela que nous dans le mouvement nous nous efforçons autant pour démocratiser l'éducation.
E nós procuramos educar o povo para que se organize e lute todos os dias.
Et nous cherchons toujours à éduquer le peuple pour qu'il s'organise et puisse lutter tous les jours.
Contra esses três muros.
Contre ces trois murs.
Là, on entend de temps en temps une cloche qui sonne. Ici, on est dans un couvent. Il y a des prêtres, il y a des religieuses. Parle-moi un petit peu de l'élément religieux et peut-être plus largement de la théologie de la libération aujourd'hui, de la place de la théologie de la libération dans le mouvement des sans-terres.
Aqui no Brasil, nós dizemos que 110% dos camponeses são cristãos.
Disons que 110% des paysans sont chrétiens.
De maneiras que há uma presença religiosa permanente na cultura do camponês.
Il y a donc une présence religieuse permanente dans la culture du paysan.
E a teologia da libertação deu uma contribuição enorme.
Et la théologie de la libération est une contribution importante.
Sobretudo durante a ditadura militar.
Surtout pendant la dictature militaire.
Antes, a igreja conservadora dizia.
Auparavant, l'église conservatrice disait.
Vocês não precisam lutar por terra, porque terão o céu.
De lutter pour la terre puisque vous aurez le ciel.
Depois da teologia da libertação.
Après la théologie de la libération.
A igreja começou a dizer.
L'église a commencé à dire.
Já que temos o céu garantido.
Puisque nous avons le ciel garanti.
Por que não lutar pela terra?
Pourquoi ne pas lutter pour la terre?
Et isso foi o que gerou uma nova consciência no meio dos camponeses.
Conscience au niveau des paysans.
Et la seconde contribution importante de la théologie.
La deuxième contribution très importante de la théologie de la libération.
Está expressa na seguinte expressão.
On peut la retrouver dans l'expression suivante.
Dieu só ajuda quem se organise.
Dieu aide seulement celui qui s'organise.
Et nós aproveitamos essa concepção de mundo.
Voulons profiter de cette conception du monde.
Para organizar os camponeses
pour organiser les paysans à lutter.
Por outro lado, dentro do movimento,
d'un autre côté, à l'intérieur même du mouvement,
nós desenvolvemos uma espécie de mística.
Nous avons développé une sorte de mystique.
La mystique du MST.
Para alimentar o sonho da mudança.
Afin de pouvoir alimenter le rêve de changement.
E novos valores da sociedade.
De pouvoir établir des nouvelles valeurs de société.
O povo não aprende de discurso.
Le peuple n'apprend pas des discours.
O povo aprende fazendo práticas novas.
Le peuple apprend uniquement en faisant et en pratiquant.
E essa visão de utilizar a mística como forma de unidade.
Et cette vision de pouvoir utiliser la mystique comme une forme d'union.
Nós aprendemos com a igreja.
Nous l'avons appris avec l'église.
No dia que fizermos a revolução no Brasil.
Le jour où nous ferons la révolution au Brésil.
Será conjuntamente com uma partida de futebol.
Ce sera en même temps qu'un match de foot.
E um baile de carnaval.
Et avec un bal de carnaval.
Ha, 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 pra lá, vai, caveira. Ui, bicha tem gorda, vai lá. Ai, ai, ai. O mameleiro perdido e buzeiro viado.
Dans l'orage encore. C'est marrant dans le chemin parce qu'il a plu. Et le sol est détrempé. Et les marques de pas, c'est des marques de pieds nus. Hein. Voilà des petites filles, une jeune fille qui vient avec une caisse en carton sur la tête. C'est des gens qui reviennent de faire les courses. Boa tarde.
Boa tarde.
Mas assim de agorinha.
mille familles au Brésil ont obtenu leurs terres grâce au mouvement des sans-terres. Aujourd'hui, il y a 100 000 familles qui vivent comme celles parmi lesquelles nous nous trouvons, qui vivent sous des plastiques noirs, dans des cabanes construites, joliment construites d'ailleurs, mais enfin, c'est quand même difficile de vivre là toute l'année. Nous, ça nous plaît, ça fait un peu vacances et tout, mais à longueur d'année, évidemment, on a compris que c'était très difficile. Et il reste énormément de monde sur la touche dans ce pays. 50 millions de personnes, 60 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, et 5 millions de familles sont sans terre, espèrent des terres. C'est des masses énormes de populations comme ça qui font pression par le truchement de ce mouvement-là. Il y en a d'autres, il faut avoir l'honnêteté de dire qu'il n'y a pas que le mouvement des sans-terres qui se bat au Brésil. Il y a tout un mouvement social important qui lutte pour la survie de cette grande partie, de cette majorité de la population rejetée. Alors là, c'est donc un campement, c'est une occupation, et après il y aura l'installation, si tout se passe bien, l'INCRA, l'Institut National pour la Colonisation et la Réforme Agraire, allouera des terres à ces paysans, et là, ce sera enfin la terre promise, mais on ne sera pas sorti de l'auberge pour autant. Qu'est-ce que vous allez faire le jour où ça va être à vous?
Aí é que nós vamos ter que trabalhar mais, né?
C'est là où il va falloir justement qu'on commence à travailler encore plus.
Porque aí a gente começa a prevalecer o interesse individual das pessoas.
Parce que à partir de ce moment-là, l'intérêt individuel des gens commence à se réveiller.
Então é preciso trabalhar em cima da questão da organização.
Et donc c'est là qu'on aura le plus de boulot, parce qu'il faudra qu'on travaille sur l'organisation de l'installation.
C'est ça.
Là, porque de fora também tem aproveitadores que querem se aproveitar.
Parce qu'après, une fois que ce sera officiel, que l'installation sera officielle, il y a aussi des gens qui sont dehors, des gens de l'extérieur qui voudront
venir
profiter.
Il y en a
qui veulent nous vendre des machines, il y en a qui voudront nous vendre des camions, il y en a qui voudront nous vendre des marchandises.
Por pouco não tinha uns 10 mercadinhos dentro
do
acampamento.
Porque se on avait laissé faire, aujourd'hui on aurait déjà 10 petits supermarchés ici au campement qui seraient en train de travailler pour eux-mêmes.
A discussão do MST e da coordenação
é do MST et de la coordination ici du campement.
Todos possam se beneficiar.
C'est de on ne permet une réalisation quelconque qu'à partir du moment où tout le monde peut en profiter.
Porque senão se sobressai ao outro e acaba explorando o próximo.
Desde o début, il y en a un qui commence à écraser l'autre et qui commence à vouloir exploiter l'autre.
Ouais.
É difícil.
C'est difficile.
Non,
c'est pas facile.
Oui, mais c'est passionnant. C'est une formidable
découverte. Quand est-ce qu'on revient?
Hein? Quand ce sera à vous. Quand ce sera à vous, on vient faire la fête avec vous.
Quand vous gagnerez la terre, on va faire la fête avec vous.
Et on amènera du champagne de Paris.
Et vamos trazer champagne français de Paris.
Estragou. Bon demais, ça fait
Je n'oublierai plus jamais vos visages. Je pourrais vous retrouver n'importe où maintenant.
Ça, c'est un endroit émouvant. Le long de cette route, on est à Eldorado dos Carajás. Et autour de nous, des troncs d'arbres brûlés qui s'élèvent comme ça. 19 troncs d'arbres brûlés. Et au milieu, un autre tronc d'arbre plus bas, plus brûlé et plus torturé. Et ça constitue un mémorial, un hommage aux paysans sans terre qui ont été abattus le 17 avril 1996, il y a donc 5 ans. On comprend pas tout de suite que c'est une sculpture, en fait, c'est très beau, c'est une puissance extraordinaire. Ce sont des troncs d'arbres, de châtaigniers qui donnent les noix du Pará, qui sont en voie de disparition dans cette région qu'on vient de traverser, c'est des plaines maintenant. Mais c'est le fruit d'un défrichage par le feu pour créer des plaines, des pâturages pour l'élevage pour de la viande dont peut-être que c'est de la barbaque pour McDo, c'est pas exclu. Mais là, ce qui s'est passé à cette époque-là, le 17 avril 1996, c'est une manifestation de paysans sans terre qui a été réprimée par la police militaire et donc 19 paysans manifestants pacifiques ont été abattus. Et ça, cette sculpture, leur rend hommage, donc, avec 19 troncs qui se montent carbonisés comme ça vers le ciel et qui dessinent la carte même du Brésil comme autant de vies brûlées, carbonisées pour la liberté, pour la terre. Et au milieu, donc, cet autre tronc avec des pierres rouges autour qui rappellent les pierres d'ici, c'est...
Une pierre par blessé. 19 morts, donc 19 troncs, plus 69 pierres, 69 blessés.
Voilà. Et évidemment rouge parce que ça rappelle aussi les mines ici. Hein. On n'est pas loin d'immenses mines de fer, enfin de fer et d'autres choses. Et donc ça rappelle ça. Qui a construit ce monument?
Fomos nós do MST, principalmente com a participação dos assentados do assentamento 17 de abril, e tivemos a colaboração de um companheiro nosso, irlandês, Dan Barão.
Ce sont les gens du MST qui ont construit ce monument avec la participation des gens de l'installation du 17 avril. Oui, l'installation a été baptisée 17 avril après le massacre et avec la participation d'un de nos camarades irlandais, Dan Barron. Il organise les gens pour que ce soit les gens eux-mêmes qui construisent ce qu'ils ont envie de construire. C'est pas un sculpteur, mais il a travaillé par exemple beaucoup avec les gens de l'IRA et avec les gens de l'ANC en Afrique du Sud. Là-bas, il y a un cocotier avec des impacts de balles encore. Et une petite chapelle qu'ils ont créée à la suite du massacre. Et des gens anonymes sont venus peindre des fresques sur la chapelle.
Culture de la violence dans cette région du Brésil, dans cet état du Pará, au sud-est du Pará, Eldorado est le symbole même de la lutte des paysans sans terre. On meurt. Toujours dans ce pays pour la terre, on est assassiné et les auteurs de ces meurtres ne sont pas encore inculpés. Les enquêtes sont en cours. Mais le combat des sans-terre continue. On a parlé d'une guerre sourde, on a parlé d'une guerre désarmée, mais c'est une guerre. Le sous-commandant Marcos parlait de quatrième guerre mondiale. Cette guerre pour la Terre qui a l'air d'être une guerre de quelque chose qui aurait une espèce de métastase du féodalisme, eh bien c'est bel et bien une guerre d'aujourd'hui, puisque c'est une exclusion, et l'exclusion est quelque chose de contemporain, bien évidemment. On retrouve le porte-parole du mouvement des sans-terre, Joan Stelil.
Quatre grands objectifs.
O primeiro, democratizar a propriedade da terra em todo mundo.
D'abord, démocratiser la propriété de la terre sur toute la planète.
O segundo, a luta para sementes sadias e sob controle da humanidade.
Deuxièmement, pouvoir obtenir des semences saines et sous contrôle de l'humanité.
Isso é contra os OGM.
Exatamente. Isso significa lutar contra os transgênicos.
Significa lutar contra os transgênicos.
E lutar contra o monopólio que as multinacionais estão fazendo das sementes.
E contra o monopólio que as multinacionais estão em train d'établir sur les propres semences.
Por isso estamos fazendo uma campanha internacional.
C'est pour cela que nous sommes en train de réaliser une campagne internationale.
Para que a UNESCO também declare.
Pour que l'UNESCO elle-même déclare aussi.
As sementes como patrimônio da humanidade.
Que les semences sont des patrimoines de l'humanité.
Que é muito mais importante.
Ce qui est beaucoup plus important.
Do que declarar um prédio histórico.
Qu'un immeuble historique.
Porque as sementes foi a que permitiu que a humanidade chegasse onde nós estamos.
A l'humanité d'arriver là où elle en est aujourd'hui.
Ah, ça c'est excellent.
Que o terceiro ponto é a luta pela soberania alimentar.
Le troisième point c'est la lutte pour la souveraineté alimentaire.
Porque hoje as multinacionais estão impondo aos governos a importação de produtos agrícolas.
Parce qu'aujourd'hui les multinationales imposent au gouvernement l'importation de produits agricoles.
Há uma lei da OMC que inclusive obriga.
Une loi d'ailleurs de l'OMC qui oblige
aos países importarem 5% do consumo.
A importar ao minimum 5% da sua consumação interna.
Nós estamos gastando 5 bilhões de dólares por ano na importação de produtos agrícolas.
Nós dépensons aujourd'hui 5 milhares de dólares par an en importação de produtos agrícolas.
Como, por exemplo, importar água mineral da França.
Par exemple, on en est à importer de l'eau minérale de la France.
E o quarto ponto é a luta contra a OMC.
Et le quatrième point, c'est la lutte contre l'OMC.
Nós somos contra a Organização Mundial do Comércio.
Nous sommes contre l'Organisation Mondiale du Commerce.
Porque ela é controlada pelo G7.
Parce qu'elle est sous contrôle du G7.
E nós queremos que os produtos agrícolas.
Et nous désirons que les produits agricoles.
Que o comércio dos produtos agrícolas.
Que le commerce des produits agricoles.
Seja regulado pelas relações bilaterais dos países.
Soit régulé par la relation bilatérale des pays.
E não pelos interesses do grande capital.
Et non pas par les intérêts du grand capital.
Alguém acredita na ONU?
Est-ce que quelqu'un croit à l'ONU?
Alguém acredita no G7?
Est-ce que quelqu'un croit au G7?
Alguém acredita na OTAN?
Est-ce que quelqu'un croit en l'OTAN?
Alguém acredita na OMC?
Est-ce que quelqu'un croit en l'OMC?
Como organismos que defendem os povos?
En tant que des organismes qui peuvent défendre les peuples?
Ao contrário, esses organismos são responsáveis pelas guerras.
Ces organismes sont responsables des guerres.
Pela fome.
De la faim.
Pelo aumento da exploração.
De l'augmentation de l'exploitation.
Pelo desemprego.
Du chômage.
E por isso nós defendemos a ideia de ir construindo a partir de fóruns como esse.
Et c'est pour cela que nous défendons l'idée de pouvoir continuer à construire à partir de forums comme celui-ci.
Organismos internacionais que sejam representativos dos povos.
Des organismes internationaux représentatifs des peuples.
O que muda o mundo é o povo organizado lutando.
Ce qui change le monde, c'est le peuple organisé en lutte.
É continuar organizando os pobres.
C'est de continuer à organiser les pauvres.
Para ocupar os latifúndios.
Pour qu'ils puissent occuper les latifúndios.
Os bancos.
Les banques.
E as multinacionais.
Et les multinationales.
Voilà. Ça c'est concret.
Isso é uma coisa concrète.
C'était la suite et la fin du reportage au Brésil de Guy Vanctil et Daniel Mermet. À noter un site d'information sur l'Amérique latine, rizal.collectif avec un s.net. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique ce soir, Pascal Baldassari et Sébastien Royer, Yann Chouquet, Christophe Imbert et Pascal Pascariello formaient l'équipe du jour. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez le répondeur de Là-bas si j'y suis 01 56 40 37 37.